flèche irréprochable. Philippe Frétinier sur Radio Grand Ciel.
J'ai commencé cette série sur la cathédrale de Chartres. On rappelle un petit peu l'historique, les différents édifices qui se sont succédés, ce qui est le cas de pratiquement tous les édifices. À l'époque, on détruit l'édifice précédent, soit parce qu'il y a eu des invasions, j'ai rappelé celles qui concernaient Chartres, soit parce qu'il y a eu des incendies, soit parfois délibérément parce qu'on décide de construire un nouvel édifice, plus grand, plus beau. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être important dans ce qu'on a pu appeler la croisade des cathédrales. Donc j'ai commencé en racontant un peu l'histoire de la façade occidentale sur laquelle je reviendrai, puisque je traiterai les trois portails avec une vision d'ensemble. Donc, puisque Chartres présente une particularité, c'est que les trois porches sont d'égale importance, avec trois portails à chaque fois, ce qui permet un grand programme iconographique, spécificité vraiment chartraine. J'ai parlé de l'histoire de la façade, qui se déroule donc avant le reste de l'édifice, qui date donc du fameux incendie de 1194. C'est-à-dire que la cathédrale d'aujourd'hui, ce qu'on voit en premier, c'est avant l'incendie, et ce qu'il y a derrière, c'est après l'incendie. Alors ça aussi, c'est un peu une particularité à Chartres, puisque dans le cas des autres édifices, on commence par démolir une partie de l'édifice. En général, le chœur, une fois que celui-ci est terminé, on finit de détruire la nef de l'édifice précédent. Si vous regardez la silhouette particulière du Mont-Saint-Michel, vous voyez bien que le chœur est beaucoup plus haut que la nef. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, si vous allez à Beauvais, la cathédrale de Beauvais, ce qu'on appelle la cathédrale de Beauvais, c'est essentiellement le chœur. Et vous pourrez voir que devant, le contraste est assez saisissant. Il y a des restes de la nef précédente. D'ailleurs, il y a encore la façade, le début de la nef. C'est très frappant puisque le chœur de Beauvais est extrêmement haut. Il atteint les 46 mètres. Et nous avons une nef romane extrêmement basse. Donc d'un côté, un chœur très très haut. Et de l'autre côté, un début de nef de l'édifice précédent très bas. Alors pourquoi procédait-on ainsi ? Bien, tout simplement parce qu'il fallait quand même conserver un lieu de culte et que pendant la construction des cathédrales, je ferai un chapitre sur le financement parce que ça a été au cœur de la problématique de la construction des cathédrales avec les impératifs techniques, les programmes iconographiques. Mais il fallait aussi continuer d'engranger des dons pour la construction de l'édifice en cours. Ça se faisait de différentes façons, y compris d'ailleurs par l'achat d'indulgence, bon, qui aboutira aux excès que l'on connaît, avec les conséquences sur l'histoire de l'Église. Et puis aussi pour les pèlerinages, enfin notamment à Chartres, où l'on montre des reliques, puisque le culte des reliques va connaître un développement considérable. D'autant plus considérable que, justement, c'est un élément non négligeable du financement des cathédrales. Je reviendrai aussi sur l'évolution de l'historiographie concernant les cathédrales, parce que c'est source, encore aujourd'hui, de beaucoup de malentendus, malgré de nombreux travaux récents, je pense à ces 30-40 dernières années. Nous restons beaucoup tributaires, finalement, de l'infusion des idées de Viollet-le-Duc dans l'imaginaire à propos des cathédrales. De grands auteurs, comme par exemple Erwin Panofsky, ont apporté une contribution qui est toujours intéressante, mais revue à la lumière de critiques, puisqu'on... Erwin Panofsky, dans son fameux livre, fait un parallèle entre la pensée scolastique et l'architecture religieuse. Et ce parallèle est remis en cause aujourd'hui, puisque c'est finalement mettre en parallèle deux choses qui n'ont pas la même dynamique, les mêmes processus. toute une série d'auteurs, par exemple Witkower, enfin d'auteurs entre Wieliczek et Panofsky ont apporté leur pierre à l'édifice, mais là aussi tributaires des cases de l'histoire de l'art de l'époque, avec l'esprit de l'époque. En fait, c'est probablement l'école des annales avec son infusion dans l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire le courant fondé par Marc Bloch dans l'entre-deux-guerres et d'autres, avec une approche de différents champs qui peuvent conduire à l'élaboration d'un regard historique, c'est-à-dire la prise en compte des considérations y compris climatique, puisque le climat va être un élément favorable pendant le XIe et le XIIe siècle, puisque c'est une période de réchauffement du climat, on le sait grâce aux historiens du climat. La sociologie, c'est-à-dire l'évolution des structures sociales de la société, l'impact de l'économie, du développement économique, puisqu'on est dans une société qui change beaucoup du point de vue économique, avec un développement des échanges. Et donc tout ça va rentrer en considération dans l'irruption de ce que aujourd'hui nous appelons l'art gothique. Alors toujours dans le cadre de l'historiographie, on attribue habituellement ce mot gothique à Vasari, qui par dérision dans une optique péjorative parle d'art barbare, l'art des Goths, puisque l'art gothique va connaître une naissance, un développement, une fin, d'autant plus complexe que cette fin s'inscrit dans un contexte plus général d'un changement de monde qui est la guerre de Cent Ans qui va signer la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, avec à la suite l'irruption de la Renaissance où on passe dans un tout autre système architectural, du point de vue de la construction, du point de vue de l'esthétique, avec de nombreuses influences. Je ne m'étendrai pas, parce que c'est un sujet à part entière et très, très large, que celui de l'arrivée de la Renaissance. Tout ceci se faisant d'ailleurs de façon fragmentaire, chaotique. Le déroulement de l'histoire n'est pas un continuum sans rupture, sans recul, sans avancée, puis des reculs. Donc il faut avoir en tête ces mouvements tout à fait complexes pour mieux saisir le contexte médiéval. Nous allons écouter une pièce d'orgue de Nicolas Grigny. Je profite de cette série sur les cathédrales pour vous faire découvrir toute la richesse du patrimoine musical français, qui n'est peut-être pas aussi bien connu qu'il le devrait de la part des Français. L'école d'orgue française est une école très importante avec de nombreuses figures éminentes, dont Nicolas Grigny. Et nous allons donc écouter de sa messe un dialogue sur les grands jeux. Thank you. cadre d'une approche historiographique, puisque finalement nous voyons l'histoire qui nous précède marquée par le cadre intellectuel de notre propre époque. C'est ce qui fait que les regards sur l'histoire évoluent au fil du temps, avec en plus les apports de nouveaux travaux qui constamment renouvellent la science historique. Il faut aussi faire une brève histoire, de la perception de l'art gothique, puisque j'ai parlé notamment de Vasari à la Renaissance, qui aborde cette époque avec dans un contexte péjoratif pour lui. Il faut dire qu'à partir de la guerre de Cent Ans a d'abord été une gigantesque coupure dans l'histoire des arts, puisque évidemment la guerre oblige à construire des installations militaires, des donjons, des citadelles, et donc les moyens aussi bien financiers qu'humains sont affectés à autre chose que la construction d'édifices religieux, qui connaît un fort ralentissement dû à cette guerre de Cent Ans. Et quand la guerre de Cent Ans se termine et qu'il y a un renouveau de la société avec de nouvelles perspectives, on a une époque de changement culturel profond, et donc on ne va pas construire comme on construisait jusque-là. Ça, c'est vraiment très important. Mais les époques qui se succèdent, la Renaissance, le XVIIe et même le XVIIIe, sont des époques tellement riches et créatrices que finalement, cela occulte l'histoire de l'art médiéval. Ce qui d'ailleurs a une conséquence dommageable pour les édifices, puisqu'on ne s'intéresse plus aux édifices qui ont été construits lors de la croisade des cathédrales, mais pas seulement lors de l'époque médiévale. On est occupé à construire de nouveaux édifices, ce qui fait qu'au XIXe siècle, il y a eu d'abord beaucoup de destruction. On n'a pas pris suffisamment soin de ce patrimoine parce qu'on ne s'y intéressait guère. Et finalement, ces destructions, s'accompagnant de la dégradation de ce qui n'avait pas été détruit, vont donner lieu à une sorte de sursaut. Alors évidemment, on cite toujours à juste titre l'exemple de Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris, qui a beaucoup contribué, il faut le dire, à un nouveau regard sur l'art médiéval, en tout cas sur la cathédrale. C'est l'époque aussi de la création des monuments historiques, dont l'une des figures les plus célèbres, c'est pas le premier, parce qu'il y a quelqu'un comme Vitet qui a joué un rôle important pour ceux que ça intéresse, mais avec une figure célèbre comme celle de Prosper Mérimée, qui va être inspecteur général des monuments historiques, qui va contribuer à classer et donc à sauver beaucoup d'édifices. Il y a le regain d'intérêt dans ce contexte, c'est un ensemble de figures, un mouvement qui se crée. Il y a évidemment l'apport de Viollet-le-Duc, sur lequel aujourd'hui certains portent un regard sévère, mais il faut regarder Viollet-le-Duc avec les yeux de l'époque. C'est-à-dire que le grand mérite de Viollet-le-Duc, comme de Victor Hugo, comme de Mérimée, comme d'autres, c'est de s'intéresser à ce patrimoine. Alors évidemment, Viollet-le-Duc est un architecte, il a des idées sur la restauration, puisque ses édifices sont souvent très abîmés. Et les idées de la restauration, sur la restauration des édifices de Viollet-le-Duc, ne sont plus du tout les idées que nous pouvons avoir aujourd'hui avec une approche scientifique, un respect du patrimoine tel qu'il est, en se gardant de l'altérer davantage, y compris par des travaux de consolidation qui dénatureraient l'édifice. On devient très rigoureux sur le patrimoine, et on a raison. Mais tout ça, ce sont des vision relativement récente. Viollet-le-Duc, lui, il remet en état les cathédrales, parfois en les complétant. C'est le cas de la flèche à Notre-Dame de Paris, qui n'est plus là, mais qui reviendra sans doute dans la restauration future. Il a une idée de ce que devrait être la parfaite cathédrale. D'ailleurs, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, il le montre bien. Et donc, il va se permettre des ajouts, des gargouilles à Notre-Dame de Paris, à refaire la galerie des rois de Reims, pour arriver à ce qu'il croit être la cathédrale quasi parfaite auquel les constructeurs de l'époque auraient aspiré. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, c'est un pas dans l'histoire de l'évolution du regard sur l'architecture gothique et de sa préservation qui conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Toujours de Nicolas Grigny, nous allons écouter le dialogue sur les grands jeux. J'ai donc mentionné évidemment le contexte historique. Là aussi, il faut sortir des idées reçues qu'il y a eu la terreur de l'an 1000 et donc d'un seul coup, cette peur a laissé place à une vision plus apaisée des relations entre le ciel et la terre. Tout ça s'est transformé en fait assez lentement. Du point de vue de l'architecture, dès l'époque romane, nous avons à la fois une architecture monacale, ce sont les grandes abbayes cisterciennes, clunisiennes, qui jouent évidemment un rôle majeur dans l'histoire de l'architecture, mais aussi une architecture religieuse urbaine, puisque, c'est d'ailleurs le cas à Chartres, avec la cathédrale de Fulbert, à l'intérieur des villes, on construit des édifices pour le culte des citadins. Donc, cette idée que l'art roman serait associé à une architecture monacale et puis l'architecture gothique à une architecture urbaine, n'est pas opérante, parce que si vous regardez bien, parmi les plus belles églises romanes, comme par exemple en Auvergne, Brioude, Issoire, Saint-Nectaire, sont des églises au cœur de la ville. Hein. Donc les choses se font à la fois doucement et successivement. C'est-à-dire que dès l'époque romane, on construit des centres religieux avec une certaine ambition, notamment des centres de pèlerinage. Un des merveilleux exemples, c'est l'église Sainte-Foy de Conques, hein, qui est donc un lieu de pèlerinage sur le chemin de Compostelle. Et l'architecture gothique qui va s'en venir va se couler dans cet héritage, dans cette succession. La grande spécificité des 11 et 12e siècles qui prépare ce qui arrive au 13e siècle, c'est qu'on a derrière soi les invasions normandes, vikings. Il y a une relative accalmie sur le plan des désordres des guerres, un début de paix qui va permettre un début de prospérité. Le changement du climat dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est favorable à l'agriculture. Donc on défriche beaucoup. D'ailleurs, ça va être un problème puisqu'on aura défriché tellement que le bois viendra à manquer, que les forêts n'arriveront pas à se renouveler. Ça va d'ailleurs poser des problèmes dans la construction, puisqu'il y aura beaucoup moins de bois. Parce qu'on pourrait avoir l'image de l'époque des cathédrales comme une époque où le bois était abondant, avec l'importance des charpentes, des échafaudages. Et en fait, non, c'est déjà une grande difficulté à ce moment-là. Le pouvoir royal, qui initialement s'étend vraiment à ce qu'une île de France un peu agrandie, va chercher sans cesse à gagner des territoires nouveaux ou asseoir son autorité pour soumettre davantage les vassaux. À l'intérieur du domaine royal, le roi a affermi son autorité. Il favorise la construction des routes pour permettre d'accompagner le développement des échanges commerciaux. Donc on est dans une société qui est à la fois rurale, avec un développement fort de l'agriculture, ce qui n'empêche pas cette prospérité, elle est en dents de scie, puisque les historiens estiment qu'il y a entre 70 et 80 famines au cours des 11 et 12e siècles. À l'époque de Philippe Auguste, sous le règne de Philippe Auguste, à l'époque de la construction de la cathédrale de Chartres, puisque sa construction démarre sous le règne de Philippe Auguste, il y a 11 famines répertoriées. Donc vous voyez, ce développement de l'agriculture n'est pas linéaire, là non plus. C'est-à-dire, on a trop la vision d'une histoire linéaire. Et c'est ce que je disais précédemment, il y a des mouvements en avant, des mouvements de recul. Malgré tout, le climat étant plus favorable, l'agriculture progresse, les échanges commerciaux se développent, et donc le roi, dans le domaine royal, va essayer d'améliorer les routes, un des grands problèmes de la société du 11e ou 12e siècle, c'est-à-dire le mauvais état des routes. Nous avons petit à petit la mise en place, développement de l'agriculture, développement économique, développement des échanges commerciaux, donc développement des villes, l'importance des villes, avec l'apparition des villes franches, c'est un privilège attribué par le roi, qui permettent à des communes de se développer, de s'enrichir et de pouvoir envisager la construction d'édifices importants.